Merci Caroline Brouet, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, c'est un retour sur les désobéissants dans les services publics. Un reportage diffusé pour la première fois le 24 mai 2011.
Les Pieds sur Terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Avec Delphine Saltel.
Aujourd'hui, finalement, on va être accusé, nous, de désobéissance, alors qu'on a aujourd'hui à appliquer des décrets qui posent questions sur des fondamentaux de la République, qui sont le service public, qui sont l'accès à des droits fondamentaux, qui sont ceux de la santé, de l'éducation, du social, du service de l'emploi, etc. Et nous, en tant qu'agents d'État qui avons accepté la mission de service public, quels moyens on a de dire aujourd'hui, mais ces réglementations, ces lois ne sont pas conformes avec l'esprit de la République, ne sont pas conformes avec l'esprit de liberté, d'égalité, de fraternité, puisqu'on remet en question l'égalité de traitement de tous les citoyens, puisqu'on remet en question la continuité du service public sur le territoire, alors que c'est des fondamentaux. Le service public, c'est un outil de redistribution. Si on le touche aujourd'hui sur des secteurs aussi fondamentaux que ceux que je viens de citer, c'est gravissime, quoi. Ce qui m'interpelle, c'est pourquoi il n'y a pas plus de réaction par rapport à ça. Est-ce que c'est un problème de conscience? Est-ce que c'est un problème de prise de conscience? Est-ce que c'est un problème de peur? Je ne sais pas.
Cela se passe en avril 2011, un colloque organisé par le Mouvement pour une alternative non violente et le réseau des enseignants du primaire en résistance et intitulé, le colloque, « Résistance et désobéissance dans les services publics ». Chacun à leur façon, ils sont venus expliquer comment ils désobéissent activement ou refusent passivement de faire ce qu'on leur demande, comment ils enfreignent les règles, un peu à la manière des objecteurs de conscience, sauf qu'ils sont hors la loi qu'ils considèrent précisément comme injuste. Ce ne sont pas des faucheurs d'OGM, ni des démonteurs de panneaux publicitaires ou des clowns activistes, ni des dégonfleurs de 4x4 de ville, mais des fonctionnaires, des agents de service public qui agissent tous ou refusent d'agir pour rester en conformité avec ce qu'ils estiment être la fameuse mission du service public et qui consiste, entre autres, à utiliser l'argent de nos impôts de la manière la plus juste et équitable possible. En ce sens, leur acte est politique et repose sur la conception commune de la justice qui sous-tend l'ordre politique. John Rawls, un des théoriciens de la désobéissance civile, précise aussi que leur acte, pour être ainsi qualifié, doit être un acte public, un acte non violent, un acte responsable. Il ajoute, et c'est peut-être le plus important au regard de la situation des services publics aujourd'hui, que la désobéissance civile est un dernier recours, une ultime et extrême action que l'on entreprend quand il n'y a plus rien à faire et qu'on a tout essayé. Quand protester, pétitionner, manifester, se mettre en grève ou même voter sont devenus inutiles. Pour que les principes fondamentaux des libertés publiques et d'équité soient respectés, il ne leur reste plus que cela à faire et ils ont bien du courage. C'est jusqu'à 14h, un reportage de Pauline Mocor.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Marie-Rose, je travaille à Pôle emploi dans l'Est, disons dans le Bas-Rhin. Et je commets des actes qui ne sont pas forcément dans la droite ligne de ce qu'on me demande de faire, quoi.
C'est-à-dire ?
Par exemple, on a un portefeuille de demandeur d'emploi quand on est conseiller. Donc sur la moitié de mon temps, je suis avec un portefeuille de 130 personnes environ que je suis censée voir chaque mois. Et donc en fait, je désobéis à cette consigne. Mais de façon souterraine, puisque en fait, je reçois ceux qui veulent me voir, hein, et ceux pour lesquels un coup de fil suffit. Je fais un coup de fil, si c'est tous les mois, c'est tous les mois, si c'est une fois par 6 mois, ça sera une fois par 6 mois. Et je bidouille sur les entretiens, puisque les entretiens sont l'indicateur qui vérifie le travail fait, en disant que bah, cette personne, je l'ai vue, ou cette personne, je lui ai téléphoné. Et voilà, donc je fais des petites opérations comme ça, qui me permettent d'être à peu près tranquille, parce que j'atteins quand même les objectifs, je remplis les petits bâtons, quoi, et je fournis à la machine ce qu'il lui faut. Et une autre forme, par exemple, de résistance, hein, je donne mon numéro de ligne directe, hein, je donne mon nom. Quand j'appelle les gens qui sont pas là, je leur laisse des messages avec mon nom et ma ligne directe. Ils n'ont pas besoin de faire le 39-49 et se faire chier à attendre que ça veuille bien répondre. Et ce sera un agent de, je sais pas trop, de quelle région, enfin de quel département qui va lui répondre. Donc Pour moi, c'est important de donner un numéro direct parce qu'on sait qu'on va avoir un interlocuteur et qui vous connaît plus ou moins, parce que bon, je ne peux pas dire que je connais tous les gens de mon portefeuille. En tout cas, c'est un repère concret et qui permet de pouvoir, s'il y a un besoin, de pouvoir l'exprimer en direct et pas passer par des trucs qui vont prendre 3 jours, quoi. Parfois, des gens que je n'ai pas vus ou que je n'ai pas eu au téléphone, pour éviter qu'ils soient radiés, je fais comme si je les avais vus ou comme si je les avais eus au téléphone. C'est-à-dire que je rentre un entretien dans leur dossier de façon à ce que la machine, enfin la procédure de radiation s'arrête, quoi.
Voilà. Vous faites un entretien fictif.
Voilà, c'est ça, les entretiens fictifs. Parfois, je dis, j'ai pas réussi à vous contacter ou j'ai pas réussi à vous voir parce que voilà, vous m'avez prévenu que vous étiez en retard ou j'invente un truc généralement pour faire en sorte que cet entretien qui n'a pas eu lieu, quoi, fictif en fait, il est quand même, je veux dire que ça soit plausible, quoi. Hein, donc bon. Quand j'ai vraiment rien à mettre, je mets continuez vos démarches et puis on se verra le mois prochain. Voilà. Bon, mais mon premier objectif, c'est de faire en sorte d'arrêter la machine qui concerne la radiation. J'essaye de rester dans cette mission qu'on a du service public qui serait de répondre aux besoins des usagers. Hein. Donc, chez nous, on parle pas d'usagers, on parle de clients. Donc déjà, j'appelle pas les gens des clients. Je reste à appeler les demandeurs d'emploi des demandeurs d'emploi et puis des employeurs des employeurs. Hein. J'essaye d'utiliser les termes qui sont liés à cette mission, de répondre aux besoins. C'est pas infondé que de se dire qu'on est là pour rendre service et que l'intérêt général, ça veut dire quelque chose. Moi, là, ce qui me fait le plus mal, c'est d'entendre que la majeure partie des gens, ils ont... Je les blâme pas, je leur jette pas la pierre. Ils ont baissé les bras, mais parce que moi aussi, hein, moi, je baisse souvent les bras parce que c'est tellement... C'est insupportable tous les jours de se dire « Bon, allez, vous allez au boulot, on va vous seriner encore tous les matins, on vous dit « Voilà, alors vous avez obtenu tel chiffre. » Enfin, franchement, c'est fatigant. Enfin, intuitivement, j'ai toujours pensé qu'il y a quand même quelque chose encore à défendre. Mes collègues me considèrent comme un peu marginale, hein, marginale. Oh là là, toi, qu'est-ce que tu fais pas pour tes demandeurs d'emploi? Franchement, t'es trop à l'écoute. Ça peut les déranger de constater que, ben voilà, moi je prends cette liberté-là et que eux, soit ils veulent pas la prendre, soit ils conçoivent pas de la prendre. Parfois ils comprennent pas pourquoi, pour moi, c'est impératif que d'être disponible. Je pense que ce qui les dérange, dans le fait que moi je le fasse, et pas eux, c'est la raison du pourquoi pas eux, pourquoi eux ne le font pas, quoi. Et c'est souvent pas parce qu'ils ne savent pas, c'est plus parce que ils considèrent que eux, ils sont, comment dire, c'est comme ça que ça doit être, sinon ça tournerait pas.
Vous avez été sanctionnée ?
Parfois, oui. Déjà pas de prime, jamais de prime, hein. Parce qu'on a des primes à la manière de servir, donc ne pas avoir de prime du tout. C'est déjà en soi une sanction. J'ai eu par 2-3 fois des entretiens avec mes chefs, hein, de recadrage, on va dire. Hein. Et quand c'était pas mes chefs directs, c'était chefs au-dessus, quoi. C'est pour ça que j'ai changé d'attitude et de positionnement. Maintenant, je reste, je ne dis plus rien, quoi. Je ne manifeste plus rien, en tout cas en public.
Je m'appelle Isabelle Deléon, je suis conseillère à l'emploi sur Pôle emploi.
À quel endroit ?
À Toulouse.
Vous désobéissez ?
Je prévois de rentrer en désobéissance, oui. Moi, ce qui me fait mal profondément, c'est que moi, j'ai des collègues tous les jours qui se démènent pour pallier, je vais dire, au manquement de notre établissement, pour contrecarrer des réglementations qui pénalisent les gens. Et en fait, bon, ils le font dans l'ombre, quoi. Je veux dire, ils le font, ça se sépare. Pas ni les demandeurs ni c'est pas pris en compte, mais c'est un acte quotidien de résistance, quoi. Moi, je me pose la question de la responsabilité de notre hiérarchie, de nos encadrants, quoi, qui devrait être fier de ça et se battre avec nous, et qui aujourd'hui lâche prise, quoi. Mon équipe aujourd'hui, il y a je sais pas moi, un tiers de l'équipe malade par jour, quoi, parce qu'on est attaqué sur du fondamental, sur notre éthique personnelle, et que que les gens ne se rendent pas forcément bien compte que ça a des conséquences sur la santé et psychique et physique, quoi. On a des témoignages très forts de demandeurs d'emploi qui nous disent « mais comment vous tenez, quoi ?» Ça arrive souvent que les gens partant nous disent « bon courage, quoi ». Alors que c'était l'inverse avant, quoi. Parce qu'ils nous voient, quoi. Ils voient comment on bosse, ils voient comment on s'investit, ils nous voient courir, faire, etc. Et souvent, ils ont des témoignages comme ça de soutien, quoi. Et quelque part, c'est juste une reconnaissance de ben voilà, on sait que c'est pas facile pour vous aujourd'hui, et c'est pas rien, quoi. Et ce que je trouve paradoxal aujourd'hui, c'est que c'est nous qui réfléchissons à savoir comment on va faire sur un plan du droit pour se défendre si on se met en désobéissance, alors que quelque part, c'est nous qui défendons un essentiel, quoi, et pas l'inverse.
Dominique Liotte, je suis monteur à ERDF, c'est-à-dire monteur, c'est ceux qui montent au poteau pour faire les raccordements d'électricité. Donc c'est ceux à qui on demande de faire des rétablissements, ce qui n'est pas un problème, mais aussi de faire des coupures au poteau quand les gens n'ont pas payé leur facture.
Vous, ça vous arrive de désobéir ?
Alors, c'est jamais évidemment personnel. Tout ce qu'on fait, on le fait collectivement au nom des Robin des Bois CGT de l'énergie. Et quand on rétablit donc collectivement le gaz ou l'électricité, on ne fait jamais ça sans donner un justificatif aux personnes, comme quoi c'est nous, les Robin des Bois CGT de l'énergie Toulouse, qui avons rétabli le courant, histoire bien évidemment qu'ils ne soient pas accusés de fraude ou de vol ou de je ne sais pas trop quoi. Par exemple, ça nous arrive que pour couper, il y a quand même des dispositifs techniques. Il y a des endroits où on ne peut pas intervenir sans que l'immeuble soit coupé, parce que c'est des boîtes métalliques dans lesquelles on n'a pas le droit d'intervenir sous tension. Donc on arrive, on dit impossible d'intervenir, il faut couper tout l'immeuble. Quand c'est le bon de coupure et qu'il faut passer la porte d'entrée, peut-être qu'on a sonné et puis qu'il n'y avait personne, même si ce n'était pas vraiment la réalité. Peut-être que la porte, elle était fermée, qu'il n'y avait pas de sonnette. Bon, ça arrivait qu'on mette les bons à la poubelle, qu'on dise nous on refuse, etc., qu'on le fasse officiellement, ça. Bon, ça m'est arrivé de faire des actions qui visent à remettre le courant dans une maison qui était squattée, qui faisait l'objet de débats avec la préfecture et tout. Donc, c'était pas un squat que personne ne connaissait. Et qu'on arrive finalement au bout du compte à ce que chacun ait un fonctionnement à peu près normal, digne de ce nom, notamment grâce à l'alimentation électrique, pour pouvoir tourner la machine à laver, pour avoir quelques ampoules, pour pouvoir faire le minimum auquel chacun devrait avoir accès. Quand c'est quelqu'un qui est au RMI, qui est au milieu d'une cour d'immeuble, ça ne coûte pas grand-chose de dire qu'on n'a pas pu rentrer, et puis de dire à la dame, écoutez, essayez de faire vite ce qu'il faut, parce que nous, on ne va pas couper, mais ça reviendra, et peut-être que vous serez coupé tôt ou tard. Donc voilà, il y a mille moyens, quand on est indigné parce qu'on considère que ce n'est pas acceptable qu'au XXIe siècle, des gens soient coupés parce qu'ils préfèrent donner à bouffer à leurs gamins que payer leur facture d'électricité, il y a mille moyens de faire en sorte que ces personnes, même si c'est provisoire, on les laisse avec le minimum qu'est la fourniture d'électricité et de gaz.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Guylaine, c'est mon prénom. J'ai 50 ans et je suis fonctionnaire publique territoriale.
C'est-à-dire, vous faites quoi ?
Alors, je travaille dans une direction qui gère les écoles. Donc, j'ai affaire aux agents qui travaillent dans les écoles, entre autres, et à l'éducation nationale par ailleurs, et puis à tous les services externes ou extérieurs à la ville.
Vous désobéissez ?
On va dire que je résiste plutôt que désobéir. Quand j'estime que c'est contraire à mes convictions ou à ma conscience, j'oublie de faire je dénonce quand même. Hein, je dis que je ne suis pas forcément d'accord ou que je trouve bizarre, curieux qu'on nous demande de telle ou telle action. On a eu des grèves d'agents qui travaillent dans les restaurants auprès des jeunes enfants, qui travaillent en entretien, Donc on nous a demandé à un moment d'être sur le terrain avec des vacataires à la place des agents, pour que les enfants soient accueillis malgré tout, ou pour effectuer le travail qui n'était pas fait par les titulaires qui étaient en grève. Donc, eh bien, à ce moment-là, on est un certain nombre à avoir dit que ça, on ne le ferait pas. Et du coup, eh bien, il a bien fallu qu'il y ait recul, puisqu'il n'y avait plus moyen de ce fait-là d'accueillir les enfants. En s'étonnant pas contre les enfants que ça se passait, mais bien parce que si on cassait la grève, effectivement, on allait contre aussi les missions de service public qui sont d'accueillir le plus d'enfants dans les meilleures conditions.
Qu'est-ce que vous faites d'autre comme acte de résistance ?
Je crois que c'est des fois ne pas répondre à des justifications. On nous demande de justifier tel ou tel acte, tel ou tel, de faire des rapports sur des agents. Moi, je vais laisser traîner, je vais pas faire, ou je vais mettre du temps, ou je vais. Et puis, du coup, dans la durée, ça ne se fait plus, quoi. Tout le monde oublie qu'on vous a demandé ça. Bon, et puis après, il y a des interrogations qu'on peut avoir. On a, à partir de lundi, normalement, à mettre en œuvre la circulaire qui interdit donc aux personnes dont le visage est caché d'être sur la voie publique. Ou de pénétrer dans des lieux publics et puis évidemment dans des bâtiments publics comme les écoles, comme les mairies, comme tout lieu. Donc c'est bien les agents du service public à un moment qui vont devoir interdire l'accès ou en tout cas à des gens qui auraient le visage caché. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la personne ne veut pas se découvrir, on est censé a priori appeler la police. Ou demander aux agents d'appeler la police. Moi, si j'avais à le faire, je ne le ferais pas. Je n'appellerais pas la police. Ça, c'est clair. Je ne le ferais pas. Et puis, je ne pense pas que je vais demander aux agents que j'encadre d'appeler la police. Enfin, s'ils m'appellent en étant en difficulté, je dis, écoutez, retirez-vous à la limite. Mais bon, ne vous mettez plus à la porte pendant quelque temps. Ou, enfin bon, on verra. Je ne sais pas d'ailleurs encore. Il y a une loi. Comment je fais, sachant que c'est extrêmement difficile et que tout le monde est conscient que c'est quasiment pas applicable.
Est-ce que le fait de désobéir, ça complique parfois les rapports que vous avez avec vos collègues ?
Ça peut les compliquer, oui. Oui, oui, bien sûr, ça les compliquerait forcément, parce que ça dérange, et puis parce qu'à un moment, ça interpelle, je suis fonctionnaire, je dois obéir, c'est dans les règles, et la collègue qui désobéit ou qui désobéirait ou qui potentiellement peut désobéir, elle dérange parce qu'elle réinterroge chacun sur sa conscience, ses convictions. Donc oui, on peut être mis en marge. On est le chieur de service, l'empêcheur de tourner en rond, quoi, qui pose trop de questions, qui interroge trop, marginalisé forcément. Et à un moment, ça fait toujours s'interroger sur est-ce qu'effectivement, je ne suis pas à côté de la plaque, quoi.
Comment vous avez commencé à désobéir ?
Alors j'ai commencé à désobéir, ou en tout cas à ne pas faire, ou à omettre de faire, quand on m'a demandé, à l'époque je travaillais dans un service social, de demander aux personnes à qui on remettait des bons alimentaires, après avoir fait un rapport et comme quoi ils en avaient besoin, de ramener le ticket de caisse afin de regarder s'ils ne faisaient pas des achats trop onéreux sur tel ou tel produit alimentaire, puisqu'il n'était pas question, effectivement, de toute façon, ils ne pouvaient pas acheter d'alcool, etc. Mais même là, on avait eu quelques injonctions de certains travailleurs sociaux, mais parce que leur hiérarchie leur demandait de vérifier s'il n'y avait pas des achats trop onéreux de style certains s'achètent du chocolat de je ne sais quelle marque alors que 4 tablettes c'est moins cher que, enfin bon, donc et ça je ne l'ai jamais fait, jamais, ou si les gens me ramenaient les tickets, enfin je l'ai jeté à la poubelle, quoi. Enfin j'ai jamais obtempéré ce genre de choses.
Philippe Berger, secrétaire général du SNUPFEN Solidaire. Je travaille dans le domaine des forêts, à l'Office national des forêts, et je travaille en Haute-Saône.
Vous faites quoi exactement ?
Je suis garde forestier. La principale activité en Haute-Saône, c'est la production de bois. Notre travail principal, enfin celui qui nous prend beaucoup de temps, c'est la désignation des arbres à abattre, donc c'est le suivi des coupes, s'assurer que les arbres sont exploités correctement, qu'il n'y ait pas de dégâts apportés à la forêt, aux arbres qui restent comme au sol, et donc que les bois soient exploités, oui, de la façon la plus convenable possible.
Et vous désobéissez ?
Ça nous arrive surtout quand on nous impose un certain nombre d'objectifs qui sont contraires pour nous à une bonne gestion forestière. Et entre autres, quand on a des objectifs qui nous demandent de produire plus de bois, alors que les forêts dont on a la gestion sont limitées, elles, à un certain nombre de volumes de bois à mettre en œuvre. Et donc, faut être vigilant. Et c'est vrai qu'avec la notion du produire plus, telle qu'elle a été développée, entre autres, par le Grenelle de l'environnement, depuis 2006 maintenant, peut justement amener à des dérapages et amener à faire couper plus de bois que la forêt peut en produire, pour permettre aux industries françaises d'être plus compétitives. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, même en mettant plus de bois, on voit très bien que de toute façon la filière bois est désorganisée en France et que mettre plus de bois ne correspond pas à un besoin économique. Donc, pour nous, c'est une aberration. Ce calcul de la production de bois doit être fait forêt par forêt et massif par massif. Amener, comme le souhaitait, comme l'a prononcé Nicolas Sarkozy dans son discours d'Urmat ou faisant suite au rapport Puech, qui annonçait 20 millions de mètres cubes supplémentaires à couper en France, est pour nous complètement aberrant et une hérésie. Donc, il faut aussi une certaine organisation, il faut des personnels pour assurer d'une part le suivi et pour amener ces mètres cubes supplémentaires. Et donc aujourd'hui, paradoxalement, on nous demande de produire plus, mais avec de moins en moins de personnel, en tout cas en ce qui concerne l'Office national des forêts. Et donc il arrive maintenant que les forestiers ne sont plus suffisamment en forêt, malheureusement, pour suivre ce qui s'y passe. Et donc on le constate déjà, c'est que le travail qui est fait en forêt est de moins bonne qualité actuellement. Et donc automatiquement, c'est des arbres qui sont abîmés, c'est des arbres frottés, c'est des sols qui sont dégradés.
Mais alors comment vous faites pour désobéir ?
Alors les désobéissances sont de plusieurs ordres, soit refus des opérations de martelage qui sont programmées, c'est l'opération qui consiste à désigner les arbres à abattre, soit rétention des informations des opérations de martelage, soit limiter de façon individuelle et collective le nombre d'arbres qui seront désignés à l'abattage.
Par exemple, par rapport au martelage, qu'est-ce que vous avez fait ou pas fait ?
Disons qu'au martelage, on a la liberté de désigner les arbres qu'on estime utiles à abattre. Avec un marteau, une petite hachette avec le sceau de l'État, on met l'empreinte donc de ce marteau sur le corps de l'arbre. Et donc là, dans ces opérations, le forestier est libre. Et donc c'est en toute conscience qu'il martèle uniquement les arbres qu'il estime bons à abattre. Donc automatiquement, c'est moins de mètres cubes au final qui seront mis en vente que initialement ce qui était prévu.
C'était quand cette dernière fois où vous avez désobéi ?
C'était mardi dernier. Donc voilà, une opération de martelage dans une forêt communale.
Qu'est-ce que vous risquez à désobéir de la sorte ?
Je dirais avant d'arriver au type de sanction, c'est surtout subir une pression de la part de la hiérarchie, ou même de certains collègues qui partagent la politique de l'établissement. Et donc c'est plutôt le regard des autres qui est, je dirais, la première dépression. On a aussi des outils de gestion maintenant de plus en plus pointus avec l'informatique. Et cette liberté qu'on pouvait avoir en tant que forestier, en étant souvent seul en forêt et puis en connaissant sa forêt, cet espace de liberté se réduit de plus en plus avec les moyens de gestion. Avec l'informatique, on a un certain nombre de dossiers à rendre. Enfin, tout est mesurable. Et donc, voilà, cet espace de liberté se restreint.
Je m'appelle Frédéric Cantegray, je suis professeur des écoles à l'école Antonin Perrin à Villeurbanne, qui est dans l'approche banlieue lyonnaise. Et j'ai des CE2 cette année.
Vous désobéissez ?
Disons que j'ai averti ma hiérarchie et les parents d'élèves qu'il y avait un certain nombre de choses que je trouvais anormales et à l'encontre de l'intérêt des enfants qu'on me demandait de faire et que j'ai décidé de ne pas faire, mais de manière transparente.
Qu'est-ce que vous refusez de faire ?
Alors, la première chose, c'est l'aide personnalisée. C'est les heures qui ont été enlevées quand on est passé en semaine de 4 jours, qu'on nous demande de faire en petit groupe avec des élèves en petite difficulté, et qu'on nous demande de faire un petit peu à notre manière, répartis dans la semaine, soit le matin, soit le midi, soit le soir. Et ces enfants, donc, d'une certaine manière, on les montre du doigt, on rallonge leur journée, et en plus, on fait un travail avec eux qu'on pourrait faire en classe. Donc ces enfants-là se retrouvent seuls avec leur enseignant à travailler sur un petit truc. On doit le faire aussi en maternelle. Donc les élèves de maternelle qui ont déjà un enfant de 3 ans, vous imaginez, déjà 6 heures à l'école, il faut en plus qu'ils fassent une demi-heure à 3/4 d'heure par jour en plus. Et en plus, certains enseignants, pour obéir à cette directive, inventent entre guillemets des difficultés. J'ai le cas par exemple d'un collègue qui me disait que sa fille, en moyenne section, à 4 ans, ne savait pas bien faire les A. C'est un truc qui est... ça arrive, quoi. Les enfants en maternelle, ils grandissent à leur rythme. Et ben, ce collègue-là se trouvait très embêté parce qu'on lui avait imposé, on avait imposé à son enfant de faire ce truc en plus, alors que, bon, c'est pédagogiquement, c'est assez idiot. Faire les lettres en grande section éventuellement, mais c'est pas une difficulté, c'est pas un problème. Ce qui fait que ça a été pour moi un des déclencheurs de dire non, je ne ferai pas ça, je ne cautionne pas. J'avertis les parents en début d'année en leur disant je ne ferai pas ça, c'est pas contre vos élèves, vos enfants. En échange, je m'engage à vous recevoir plus souvent que d'habitude parce que le temps que je dois, qui est le temps sur lequel je suis payé, et ben, je vais le consacrer à la réussite de vos enfants et discuter avec vous et prendre le temps de régler les problèmes ou d'en discuter même de manière tout à fait informelle, même si tout va bien. C'est un bon moyen de faire progresser vos enfants.
Les parents d'élèves ont réagi comment ?
Tous les parents étaient d'accord et j'en ai un certain nombre qui me soutiennent sans problème et qui sont tout à fait conscients que je ne fais pas ça par fainéantise. Ce n'est pas pour m'enlever du travail, c'est simplement pour travailler d'une manière qui me semble plus proche de ce qui est l'intérêt des enfants.
En agissant ainsi, est-ce que vous courez des risques ?
Oui, disons que c'est y a une échelle de sanctions qui est en place. Il y a pas mal de collègues qui étaient assez moteurs au début de ce mouvement-là, qui ont subi des sanctions parfois assez lourdes, qui ont pu être compensées par la solidarité des collègues qui étaient autour. Il y a eu des retraits de salaire assez conséquents. Il y a eu des collègues qui étaient formateurs en IUFM à qui on a refusé le renouvellement du poste d'IUFM. Donc ils ne pouvaient plus être formateurs pour les autres enseignants. On a eu des collègues qui étaient directeurs d'école qui refusaient de renseigner bas élèves, donc le fichier qui fiche les gamins sans l'accord des parents, et qui se sont fait refuser le poste de direction pour l'année d'après, par exemple. Des pressions plus moins fortes, mais des inspections surprises. Voilà, des pressions de ce registre-là, mais il n'y a pas d'unité sur les pressions et sur les sanctions qu'il peut y avoir autour de ça.
Et vous, aucune sanction pour vous ?
Non, des entretiens parfois, mais rien de plus. Quand j'ai démarré ma carrière, je n'imaginais jamais faire quelque chose comme ça. Je n'imaginais pas être obligé d'avoir une attitude d'opposition comme ça et de prise de position pédagogique et politique, entre guillemets. Ce n'est pas quelque chose dont je me sens très fier. C'est simplement une espèce d'obligation à un moment donné quand on nous incite à faire des choses qui ne nous plaisent pas, allant à l'encontre de l'intérêt de l'enfant.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, retour sur les désobéissants dans les services publics, un reportage de Pauline Maucor réalisé par Julie Béressy, diffusé pour la première fois le 24 mai 2011. Notre attachée de production, c'est Sandrine Chaperon. Merci à Elisabeth Weissmann, Xavier Renoux, Pascal, Paola, Guillaume et tous les membres du mouvement pour une alternance non violente et bien sûr tous les désobéissants qui ont témoigné. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. Bon après-midi à tous sur France Culture.